RCF.
Catherine Picard, bonjour. Nous sommes dans votre cabinet de consultation et merci de nous y accueillir. Il faut dire qu'on se croirait plutôt dans un petit salon très cosy, très chaleureux, très intime et on s'y sent bien. Catherine, vous êtes naturopathe, mais pas que. Je sais que vous aimez l'art, vous chantez du reste. Vous êtes très psychologue et vous pratiquez, on peut dire, la relation d'aide. Vous êtes ouverte au monde sensible. En fait, vous portez plusieurs casquettes, hein. Mais celle qui aujourd'hui intéresse notre émission, c'est l'iridologie, parce que bien sûr, il y a beaucoup question de couleurs. Alors avant de nous expliquer ce que cache ce mot savant d'iridologie, dites-nous ce qui vous a mené à cette recherche particulière.
La recherche par rapport à l'iridologie?
Oui.
Alors quand j'ai commencé mes études de naturopathie, on va dire en 2005, je ne connaissais évidemment ni d'Ève ni d'Adam, l'iridologie. Bien oui. Sûr que ma formation...
Comme beaucoup de nos auditeurs.
Ma formation initiale d'infirmière ne m'avait pas amenée sur cette voie-là. Autant on pouvait entendre effectivement parler de l'homéopathie, de l'aromathérapie, de la phytothérapie, mais alors l'iridologie, c'était vraiment un territoire inconnu. Et quand j'ai commencé à étudier cette magnifique, lecture du terrain humain, j'ai trouvé ça fabuleux. D'abord et d'une, j'étais bluffée de voir tout ce qu'on pouvait voir et analyser dans un iris, parce que c'est quand même assez bluffant au départ. Et puis surtout, à chaque fois qu'on nous donne un petit peu les détails de notre caractère, des caractéristiques de notre terrain, de nos critères génétiques, on est quand même assez bluffé de voir que bah, finalement on tombe dans le juste quasiment à chaque fois.
Oui, alors on va développer. Faisons justement entrer notre auditeur de RCF chez vous, Catherine Picard, et devant moi, sur un écran, se trouve une photo de l'œil que vous êtes en train de travailler. Et ce qui me vient tout de suite, c'est sa beauté. C'est absolument fascinant. Ah, parce qu'a priori, zoomer un de nos organes, comme l'œil, ça pourrait être très laid. Eh bien non. C'est un peu dérangeant, c'est sûr, mais c'est très très beau. Moi, j'y vois la Terre avec ses collines, ses mers, ses continents. Spontanément, c'est tout un univers. Alors on aura compris, vous étudiez l'œil, Catherine, mais plus précisément, qu'est-ce que l'iridologie?
Alors en fait, c'est l'étude de la couleur de l'iris. Effectivement, l'iridologie est basée sur le constat qu'avait fait Hippocrate il y a des millénaires de ça, on va dire. Il avait dit, tels sont tes yeux, tel est ton corps. Et en effet, maintenant, avec les progrès de la science, on se rend compte que dans l'iris, on se retrouve avec non seulement l'empreinte de caractéristiques génétiques qui sont liées à la couleur en particulier, justement, dont on parlera tout à l'heure, et en plus, on a une plage réflexe qui est un petit peu apparenté à ce qu'on pourrait avoir au niveau de l'oreille ou au niveau de la voûte plantaire ou au niveau des mains en termes de réflexologie. Hein, c'est-à-dire que les terminaisons nerveuses aboutissent dans l'œil et l'œil est pratiquement la zone du cerveau qui est la plus innervée, qui mobilise en tout cas le plus de neurones parce que c'est la vision, c'est extrêmement fin, c'est extrêmement complexe et du coup il y a énormément de terminaisons nerveuses qui arrivent jusqu'à l'œil et on peut se représenter effectivement la cartographie du corps humain à travers les différents secteurs de l'iris. Donc l'iris, c'est la partie colorée, on entend bien de l'œil. Hein, voilà.
Mais est-ce que votre analyse repose surtout sur la couleur? Quelles sont ces couleurs de l'œil?
Alors, elle repose essentiellement...
Toutes ces couleurs,
voilà, on retrouve un certain nombre de couleurs, on va dire, parce que finalement, ce qui fait la couleur de l'iris, à la base, c'est le pigment qui est issu de la mélanine, hein, qui fait aussi la couleur de la peau, du reste. Hein.
Oui.
Voilà, c'est-à-dire noir chez les noirs et plutôt blanc ou clair chez les personnes qui en ont moins. L'iris, c'est la même chose. Quand il est dénué de tout pigment, il est bleu, puisqu'on voit la rétine à travers. Hein. Donc, il n'y a pas de couleur, en fait. Un iris bleu, c'est un iris qui n'a pas de pigment. Et ensuite, il y a les pigments mélanine, qui est marron. Hein, voilà. Et en fonction du taux ou du pourcentage de ce pigment, on va avoir tout un tas de nuances de couleurs.
Alors, justement, est-ce que c'est ce qui peut expliquer que la couleur de l'œil varie suivant les régions?
Alors, effectivement, la couleur varie selon les régions. Alors, tel qu'on on l'explique dans la littérature irienne, en tout cas ce que les anciens iridologues évoquaient comme théorie, hein, et qui est toujours un petit peu actuelle, on va le voir ensuite, c'est que à l'époque de l'homme préhistorique, les hommes vivaient à peu près au niveau du croissant fertile qui correspondrait aujourd'hui à l'Irak. Hein, voilà. Et les gens, effectivement, enfin les hommes préhistoriques étaient étaient quand même plutôt de peau foncée et avec des yeux foncés. Ils étaient tous plus ou moins de couleur foncée avec des yeux marrons. Et ensuite, il y a eu des migrations. Hein, il y a eu un flux migratoire vers le nord, hein, donc toutes ces peuplades qui ont migré vers le nord, mais l'évolution de l'espèce s'est faite évidemment sur des milliers d'années, mais les yeux et la peau se sont éclaircis pour laisser passer les rayons du soleil. Oui. Voilà. Et les personnes qui ont migré vers le sud, elles, au contraire, se sont chargées en pigments et pour justement se protéger du soleil. Voilà, ça c'est l'explication, on va dire, un peu empirique qu'on pouvait avoir. Mais c'est pas si loin de la vérité, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte quand même, quand on regarde un peu les différentes répartitions des couleurs d'yeux.
Quelles sont les couleurs d'yeux les plus fréquentes alors aujourd'hui,
justement ? Il y en a trois. Après, c'est une variation de couleurs. Mais en fonction du pigment, on va dire qu'il y a trois grands... Il y a deux gènes majeurs et des gènes qui sont mineurs. Il y a plusieurs gènes qui expliquent la couleur des yeux au niveau génétique. Mais les trois grandes couleurs, c'est marron, bien sûr, bleu. Et puis, vert-noisette. Hein. En gros, c'est les trois grandes familles, on va dire, d'iris. Après, il y a tout un tas de nuanciers de couleurs. Et on va voir que l'iris est un tissu. Et comme tout tissu, il peut avoir, bien sûr, il baigne dans l'eau. Et en fonction de la composition chimique de l'eau, il peut y avoir des acides. Il peut y avoir, chimiquement, en tout cas, des composantes dans l'eau qui vont marquer l'iris de certaines taches ou de certains virements de couleurs. Les couleurs vont devenir plus claires ou plus foncées, un peu comme quand on lave un vêtement et puis que les couleurs passent un peu au lavage. Ou au contraire, quand on fait une tache d'eau de Javel, on va avoir une tache blanche sur un tissu bleu et puis la tache blanche, on aura beau la laver, elle restera toujours présente.
La couleur varie en fonction de son
vécu. Donc, il y a les virages de couleurs peuvent s'expliquer par la génétique. Bien sûr, on retrouvera, par exemple, dans les pays du sud qui sont beaucoup plus ensoleillés, une grosse population aux yeux noirs, pratiquement 80% on va dire de la population a les yeux marrons, les yeux très foncés, et dans les pays scandinaves,
le type méditerranéen,
dans les pays scandinaves on a pratiquement que 80% d'yeux bleus. Et après chez nous les Européens, on va avoir effectivement un petit peu de brassage de population, et c'est en Europe justement qu'on a le plus de d'yeux avec des couleurs mélangées, ce qu'on pourrait appeler les verts noisettes. Qui sont un petit peu plus représentés chez nous.
Voilà, pour moi, peintre, cette couleur, c'est fascinant, c'est un vocabulaire en soi, Van Gogh nous l'a assez dit, la couleur exprime quelque chose. En peinture, dans l'usage qu'on fait de la couleur au quotidien, je le comprends bien, je le sens, je le vois, mais en iridologie, à vrai dire, on a du mal à comprendre que cette couleur de l'iris puisse nous renseigner sur la personne. Comment est-ce possible? C'est-à-dire, quel lien vous faites entre l'iris d'une personne et, par exemple, son état de santé?
Alors, parce que, bien sûr, depuis des centaines d'années, les médecins iridologues qui utilisent l'iridologie, et notamment aujourd'hui, on peut dire qu'en Inde, on a 2 millions d'iridologues médecins. Discipline qui est reconnue par la médecine officielle.
Alors, plus là-bas.
Voilà, et qui est rentrée à l'hôpital. On a quand même des études maintenant vraiment scientifiques sur l'iridologie dans ces pays où l'iridologie est vraiment rentrée dans les mœurs médicales. Chez nous, c'est beaucoup plus difficile. Mais en tout cas, il y a un consensus européen maintenant avec une sémiologie, ce qu'on appelle la sémiologie, c'est l'étude des signes, un petit peu comme en médecine, on va étudier des signes particuliers à l'IRM ou particuliers à la radiographie, nous on va voir des signes qui sont spécifiques à l'iridologie et qui nous renseignent bien sûr ces signes de l'état de santé d'une personne. Mais c'est même pas l'état de santé, c'est plutôt ses caractéristiques génétiques, c'est-à-dire c'est plutôt ses fragilités et ses atouts.
Son terrain.
Voilà, son terrain génétique. Et après, bien sûr, avec le temps, le terrain a pu se dégrader et on peut voir un certain nombre de signes de dégradation de ce terrain dans l'iris.
Ce qui peut constituer une aide.
Voilà. Par contre, il est peu fréquent que l'iris change dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on va avoir une accumulation de signes, mais jamais, franchement, de régression de signes. C'est-à-dire qu'une fois que les signes sont présents dans l'iris, ils le sont de manière plutôt indélébile. À part certains signes qui viennent, mais on va dire que 80% de ce qu'on voit dans l'iris ne bouge pas.
Ça veut dire que l'aspect de l'iris, si vous prescrivez un traitement, est-ce qu'il va rester le même si la santé s'améliore?
Alors non, c'est justement la raison pour laquelle le bilan irien n'est pas un bilan qui est en temps et en heure et qui bouge avec le temps. Donc ça nous renseigne d'une certaine prédisposition génétique de la personne, d'un certain caractéristique, enfin en tout cas des caractéristiques de fonctionnement de son organisme à partir de sa génétique, mais ça n'est pas une lecture instantanée du terrain au jour de la consultation. D'accord. C'est pour ça qu'en naturopathie, il y a d'autres bilans qui viennent conforter celui-là et qui viennent nous donner un peu l'image, l'état du terrain au jour de la consultation.
Ce qui fait pour que, analyser, est-ce que vous vous renseignez à partir des deux yeux ? Est-ce que les deux yeux vous racontent des choses différentes, comme c'est le cas en réflexologie plantaire, par exemple ?
Tout à fait. Pour la bonne et simple raison que, effectivement, si on fait l'analogie avec la réflexologie plantaire, on a une cartographie qui est en lien avec la position des organes dans le corps. Il est bien évident qu'on va avoir un foie à droite dans un iris droit et un cœur à gauche dans l'iris gauche. Hein, voilà. Après, il y a une latéralité qui est tout à fait logique en fonction de la place qu'occupent les organes dans le corps. Oui. Après, certains iridologues avaient mis en évidence, alors ça c'est peut-être plus difficile à prouver aujourd'hui et c'est peut-être un peu plus compliqué, mais la prédominance génétique du côté maternel et du côté paternel. Voilà. On dit que l'œil droit correspond à l'ancêtre, enfin en tout cas à la mère ou au père, enfin la personne qui est du même sexe que soi.
D'accord.
Voilà. Oui, il y a toujours ce côté. Et l'œil gauche, le sexe opposé. C'est-à-dire que, par exemple, pour une femme, l'œil droit correspondra à l'hérédité, on va dire, plutôt maternelle, et l'œil gauche, paternelle, et pour l'homme, ce sera l'inverse. Mais bon, ça, c'est, on va dire, un petit peu plus à prendre avec des pincettes.
Alors, justement, venons-en au point un petit peu délicat. Vous le savez, Catherine, beaucoup de contestent que l'iris puisse être considéré comme une zone de projection du corps. À défaut de preuves scientifiques, malheureusement, a priori, on n'en a pas. Comment convaincre nos auditeurs de l'utilité de l'iridologie ? Comment croire qu'un détail de notre iris puisse révéler la prédisposition à telle ou telle maladie ?
Alors, effectivement, il y a toute une sémiologie qui reste encore assez empirique et qui, justement, manque de preuves, on va dire. Hein. C'est l'observation depuis des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui fait dire à ces iridologues, on va dire, de l'ancienne génération, que effectivement, il y a une certaine coïncidence ou corrélation entre ce qu'on voit dans l'iris et une éventuelle prédisposition à une maladie. Donc, c'est ce qu'on appelle des études observationnelles. Bien sûr que ça n'a pas été conforté cliniquement, en tout cas à l'époque, avec des examens médicaux. Maintenant, l'iridologie moderne, celle qui est un peu on va dire en cours au niveau international, en tout cas au niveau des collectifs de praticiens en iridologie qui peuvent être la plupart médecins, on a maintenant la possibilité de pouvoir prouver le signe irien et de le corroborer avec une IRM fonctionnelle, avec des clichés de scanner, et c'est ce qu'est en train de faire ce collectif actuellement, qui est piloté par le chef de file de cette recherche scientifique, c'est John Andrews, en Angleterre, avec Daniel Lorito, par exemple, qui est une médecin aussi italienne. Voilà, il y a plusieurs pays qui se rassemblent, l'Inde, l'Allemagne, pour essayer de donner des notions beaucoup plus scientifique et de prouver justement la relation qu'il y a entre un signe irien et bien sûr des examens biologiques, radiologiques, etc., etc.
Vivre et créer en couleur se poursuit sur RCF. L'artiste peintre Béatrice Vial-Collet a rencontré Catherine Picard, naturopathe et iridologue.
Catherine, pour aller vers un peu plus de légèreté, moi j'aime à croire que les yeux sont les fenêtres de notre âme, comme vous disiez d'une autre façon au début. En iridologie, la couleur des yeux, est-ce qu'on peut considérer que c'est une indication sur le caractère des gens ? Vous savez, on dit yeux marron, yeux de cochon. Et puis on dit aussi yeux verts, yeux de sorcière. Peut-être la rareté ou la beauté font-elles peur ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, le caractère d'une personne en iridologie va se mesurer sur plusieurs critères, enfin en tout cas la tendance du caractère, hein, parce que c'est assez réducteur sinon. Effectivement, les yeux, la couleur va nous renseigner sur un mode de fonctionnement plutôt physique, mais bien sûr également un petit peu psychologique, si on en réfère un petit peu au tempérament d'Hippocrate. C'est-à-dire qu'en gros, un iris, pour donner un exemple, vert-noisette, c'est une personne qui a un très mauvais fonctionnement digestif et qui a une grosse paresse du pancréas, du foie et de la vésicule biliaire. Et effectivement, si on s'en réfère un peu à la littérature antique, on va avoir le caractère du bileux, c'est-à-dire la personne qui clairement se fait de la bile. Voilà, ça, assez souvent, on va retrouver ça. Maintenant, c'est pas du tout, c'est très empirique ce que je suis en train de raconter là. Mais par contre, il y a des signes dans l'iris qui donnent un petit peu la tendance de l'état du système nerveux. C'est-à-dire qu'on peut savoir clairement dans l'iris si c'est une personne qui est plutôt hyperactive, nerveuse et qui dépense beaucoup d'énergie, ou au contraire si c'est une personne qui est plutôt hypoactive, qui est plutôt, on va dire, enfermée, ou plutôt, voilà, avec un tempérament beaucoup plus calme. Parce que dans l'iris, effectivement, on a un rapport direct avec le système nerveux. Donc il y a des signes qui montrent l'activation du système excitatoire, ou au contraire du système freinateur du système nerveux.
Alors, dans les couleurs des yeux, le bleu est la couleur qui fascine le plus. Un dicton dit « les yeux bleus vont aux cieux, les yeux gris au paradis, les yeux verts en enfer et les yeux noirs au purgatoire ». Le bleu, il apparaît comme un signe de beauté et de classe. À votre avis, est-ce qu'on peut dire que l'impression qu'on a de quelqu'un, elle diffère suivant la couleur des yeux ? Cette personne.
Alors là, on va faire un petit peu appel plutôt à la sexologie. Bien sûr que dans le règne animal, on est bien d'accord que la couleur sert d'attraction et de pouvoir d'attraction sexuelle. D'ailleurs, c'est souvent les femelles qui sont attirées par les couleurs, par les couleurs du mâle. Si on prend l'exemple du faisan, par exemple, le mâle est très
doré,
coloré,
pareil,
et la femme est un petit peu moins. Alors, il y a une théorie d'ailleurs très très intéressante sur sur justement la couleur des yeux. Alors, c'est une équipe scientifique qui a réfléchi à ça, et c'est assez rigolo d'ailleurs. Pour certains généticiens, la couleur d'yeux et le mélange de couleurs dans les yeux serait lié à la réponse sexuelle. Alors c'est très intéressant de voir le résultat de leurs études. Ils se sont aperçus que lorsque les mâles étaient supérieurs aux femelles, ou l'inverse, la couleur sexuelle, la couleur de l'œil, va justement se modifier pour justement faire l'objet d'une attraction et d'un code d'attraction sexuelle pour attirer le mâle ou la femelle en fonction de la dominance, finalement, en termes de... Alors, on retrouve ça chez les animaux, effectivement, mais bon, nous ne sommes guère que des mammifères un peu améliorés.
Oui, puis nous, on rougit aussi dans certaines occasions.
Voilà.
Est-ce que vous pensez, Catherine, qu'on pourra bientôt changer la couleur de nos yeux pour donner une autre image, celle que peut-être on souhaite donner, pour changer sa personnalité ?
Alors, évidemment que c'est déjà le cas, puisqu'on utilise très régulièrement les lentilles de couleur pour changer. Voilà. Il y a énormément de personnes qui aiment bien utiliser les lentilles pour. Au niveau purement et simplement médical, je pense qu'un jour on sera effectivement capable de greffer un tissu irien. Mais enfin là, franchement, à mon avis, là pour l'instant, c'est quand même un petit peu utopique de penser qu'on puisse arriver à ça. Parce que c'est déjà très compliqué d'arriver à faire des interventions sur la vue. Ne serait-ce que ça. On voit d'ailleurs la grande difficulté à greffer des cellules visuelles pour que les personnes aveugles, par exemple, récupèrent un champ visuel correct. Donc, bien sûr, je pense qu'on sera capable un jour de greffer du tissu irien pour changer la couleur. Mais la couleur, elle est quand même déterminée avant tout par un certain nombre de gènes. Chez les Européens, par exemple, on trouve 7 allèles différents pour la mixage des couleurs. Donc, c'est quand même essentiellement purement génétique. C'est compliqué après de... Mais bon, pour l'instant, on va dire qu'on s'en tient aux lentilles de couleur.
Oui, mais ça pourrait être utile. Par exemple, on dit des yeux bleus qui sont fragiles. Est-ce que certaines couleurs protègent mieux que d'autres la personne ?
Alors, effectivement, on va prendre l'exemple d'une personne qui vivrait dans le nord de la France, même au Danemark, qui tout d'un coup serait mutée dans une région très ensoleillée. Elle serait bien obligée de porter des lunettes de soleil pour se protéger des UV. On est bien d'accord, même la peau d'ailleurs. Elle ne serait pas faite génétiquement pour vivre dans un pays où le climat... Mais maintenant, c'est sûr qu'avec les lunettes de soleil, avec les systèmes de protection qu'on a, bien sûr que tout est possible. On ne va pas aller dépenser des fortunes, à mon avis, pour changer la couleur ou pour se faire greffer des mélanocytes, à la limite, les cellules qui produisent de la mélanine pour avoir plus de pigments. On sait très bien que de toute façon, une personne va forcément à un moment s'adapter, mais il faut des milliers d'années pour qu'un gène s'adapte à son environnement. Donc forcément que ça ne va pas pouvoir se faire là, même à l'échelle de l'âge humain.
Oui, c'est ça. Enfin, c'est un univers qui est vraiment fascinant. Moi, j'ai envie de dire aux auditeurs, pour conclure, je me suis prêtée à votre examen. C'est encore la meilleure façon de se rendre compte, de se faire une idée. Et je dois avouer que Vos commentaires sonnaient, mon Dieu, très justes. Et oui. Voilà, c'est très déstabilisant. Catherine, j'ai envie, pour terminer, si vous voulez bien, on va se livrer un petit questionnaire à la Proust. Je vais vous poser quelques questions et d'une façon très rapide. Si vous voulez bien nous répondre, comme ça on va faire un peu plus connaissance. Quel souvenir en couleur vous viendrait là?
Là tout de suite, le rose. Rose, symbole de mes filles, voilà, à oui, la naissance.
D'accord.
Petit bout de bébé, de chair rose, oui, là qui arrive.
Et
là.
C'est une couleur qui fait du bien.
Voilà, un beau souvenir.
Comment diriez-vous en couleur pardon?
Pardon, peut-être violet.
Je t'aime.
Oh ben rose.
Oui.
Rouge?
Non.
Je dirais noir, mais c'est une de mes couleurs préférées qui ne veut pas forcément
dire.
C'est
un noir ambigu, hein.
Ouais, ça putain, un noir ambigu. On va mettre plutôt,
hein.
Ouais, voilà. Ouais, on pourrait mettre plutôt gris, allez.
D'accord, ni oui ni non. En Occident, le deuil se porte en noir. En Orient, c'est en blanc. Un blanc souvent associé au noir, hein, comme au Japon. Mais en Chine, la mort peut être célébrée joyeusement en rouge, si la personne était très âgée, parce qu'elle a mérité de vivre longtemps. Alors vous, Catherine Picard, à quelle couleur aimeriez-vous associer ce temps de la vie que le deuil?
C'est une question un peu délicate, parce que moi, c'est vrai que je suis très très souvent habillée de noir, parce que je trouve
oui,
que le noir, c'est une couleur, comment dire, pour moi, qui évoque le raffinement. Plus que le deuil, à la limite, je verrais plutôt la couleur violette. Oui, voilà,
oui.
Pour évoquer le deuil.
Ça existe aussi, hein. Ça a existé. À quelle couleur voudriez-vous associer Mozart?
Mozart, moi je le verrais bien plutôt rouge, Mozart.
Et les Beatles?
Les Beatles, ça c'est plus délicat comme question. Peut-être, peut-être vert.
Mm-hmm. Oui, je vous pose la question qui est intéressante parce qu'on sait que vous chantez. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné pour sa couleur?
La plante, l'arbre ou l'animal? Alors, il faut que je choisisse entre un de ces choses-là.
Ce qui vous vient, là, à cause de sa couleur.
À cause de sa couleur. Alors, quelle serait ma plante préférée par rapport à sa couleur? C'est-à-dire que là, c'est difficile.
Moi, je voudrais la coccinelle, comme ça, rouge, avec des petits points noirs.
Oui, c'est pas mal aussi. Alors moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les chats, les chartreux, là, qui sont un peu bleu nuit, là.
Ouais.
Et j'aime beaucoup le lapis lazuli. Donc je dirais, ouais, peut-être
ah
ça.
Oui, joli. De quelle couleur serait votre principale qualité?
Je dirais rose.
Et votre principal défaut? Qu'on ne vous demande pas, hein.
Principal défaut, je mettrais noir. Pour le coup, c'est peut-être pour ça que je suis toujours noir.
Dieu existe, Catherine. En quelle couleur le voyez-vous vêtu?
Blanc.
Blanc, oui. Merci beaucoup, Catherine, pour ce moment passé avec vous. Je voudrais terminer en disant que vous avez mis sur pied et vous présidez l'Institut de recherche et de développement des pratiques scientifiques de santé naturelle. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, en quoi ça consiste?
Alors cet institut, il est né il y a 2 ans maintenant, même peut-être bien 2 ans et demi, pour une mission bien précise. J'ai eu l'occasion d'être interviewée sur vos ondes d'ailleurs à ce sujet quand nous avons travaillé sur une proposition de loi avec Olivier Saverny, donc le député de la première circonscription de La Rochelle, concernant la possibilité de réformer un petit peu la formation en termes de pratiques de santé naturelle. Moi je m'aperçois depuis le temps que je pratique, ça fait maintenant presque 7 ans, que je suis installée à La Rochelle, et au fur et à mesure de mes rencontres avec d'autres professionnels, que le niveau de formation est vraiment très très insuffisant. Moi je suis issue de formation médicale, enfin en tout cas paramédicale de par ma profession initiale qui est infirmière, mais je m'aperçois que ce socle de connaissances est quand même très limité dans un grand nombre, on va dire, de formations en pratique de santé naturelle.
Et puis vous distinguez surtout. Hein.
Voilà, donc l'Institut est né pour ça. Aujourd'hui il s'oriente beaucoup plus vers une mission de santé publique, d'ailleurs il va peut-être changer de nom en essayant justement de développer des actions de santé publique et de pédagogie de santé dans le milieu rural, c'est-à-dire apporter l'information auprès des gens, auprès de la population, par rapport à l'éducation de la santé, comment se maintenir en bonne santé, comment préserver ses artères, comment éviter de manger n'importe quoi, comment, voilà. C'est déjà un petit peu ce que je fais moi à titre personnel en intervenant comme expert sur France Bleu régulièrement. Et voilà, moi je pense qu'on arrivera à à améliorer, on va dire, le comportement des gens en les informant. Parce que je pense qu'ils ne sont pas forcément toujours bien informés.
Oui, parce que là, ce serait très utile d'y voir un peu plus clair dans toutes ces
informations et ces contre-informations. Voilà, parce qu'il y a des informations. En plus, les gens regardent beaucoup Internet aujourd'hui et ils y voient tout et son contraire. Donc, c'est bien d'arriver à faire un petit peu la part des choses, par exemple sur le gluten, par exemple sur les produits laitiers. Il y a beaucoup de croyances dans le milieu.
Donc, merci, ça nous éclairera. Merci beaucoup, Catherine Picard. Bientôt.
Merci beaucoup à vous.